Complètement à l'Ouest, l'émission qui parle de tout sauf d'immobilier. Présentée par Philippe Boyer, directeur de l'innovation chez Covivio.
Et bonjour à tous, bienvenue dans cette 48e émission de Complètement à l'Ouest. Alors pour l'émission de ce jour, j'aimerais que nous prenions un peu de hauteur, tel un oiseau perché sur un toit qui contemplerait la beauté du paysage. Vous allez sans doute vous dire que je déraille à bloc, mais après tout, Complètement à l'Ouest est là pour ça. Cette émission est là pour explorer, est là pour prendre de la hauteur, est là pour remettre les choses en perspective et au passage s'ouvrir l'esprit. Depuis plus de 5 saisons, telle est la raison d'être de Complètement à l'Ouest. Je le disais, nous allons donc prendre de la hauteur pour contempler, nous émerveiller, bref, voir le beau. Nous ne sommes ni les premiers ni les derniers à parler de ce qui est beau et de ce qui nous fait du bien. Baudelaire, dans Les Fleurs du Mal, écrivait « Je suis belle, ô mortel, comme un rêve de pierre ». René Char, dans Allégeance, « La beauté, dans son inaltérable acuité, ne consent qu'à l'amour. Ce que nous allons chercher, c'est le lieu de son séjour et les moyens d'y accéder ». C'est donc de troubles, d'émoi, de passion, de chamboulement, d'extase dont nous allons parler aujourd'hui avec cette émission philosophique consacrée à la beauté. C'est parti, droit devant, larguons les amarres et cap à l'ouest, complètement à l'ouest.
Complètement à l'ouest, sur Radio Imo et Radio Territoria.
Bonjour chère Laurence de Villers.
Bonjour Philippe Boyer.
Et bienvenue pour la troisième fois à ce micro de Complètement à l'ouest. Les auditeurs donc de Complètement à l'ouest vous connaissent bien, puisque vous êtes déjà venu une première fois pour nous parler de la mer, d'océan, avec votre ouvrage paru en 2022, Petite philosophie de la mer. Et puis l'année dernière, en 2023, vous étiez revenu pour évoquer ce cher Blaise Pascal, suite à l'apparition de votre ouvrage Philosophie de Pascal. Et nous sommes à présent en 2024 et je vous réaccueille avec beaucoup de plaisir à ce même micro pour nous parler de beauté. Cela fait suite à l'apparition de La Splendeur du Monde avec pour sous-titre « Aller à la rencontre de la beauté » aux éditions Stock au mois de mai dernier. Alors avant que nous plongions dans cette beauté que vous évoquez dans ce livre, je voudrais, chère Laurence, vous livrer l'anagramme de la phrase suivante. Laurence de Villers écrit sur la beauté et en utilisant toutes les lettres, ça donne sur cette clé du rêve un art crucial et sensible. Je vous le livre comme ça. Alors puisque vous connaissez l'émission, vous savez que j'aime bien démarrer cette émission avec un court extrait sonore, histoire de se mettre dans l'ambiance, et là, il va s'agir de beauté, mais de beauté toute relative. On écoute.
Ah oui. Ah oui, oui.
En trios.
Oui, oui, oui.
En trios des années 70, hein, attention, il a une période similaire en ce moment, mais celui-là, c'est un de 70.
Bien sûr. Cher.
Dans l'absolu, oui, en réalité, non. Il te plaît?
Ah oui. Ah oui, oui, écoute, oui, ah oui. Alors...
Évident.
Évident et en même temps...
Paradoxal.
Probablement. Combien?
200 000.
Eh oui.
Eh oui. Dingue, non?
Dingue.
20 briques!
Alors, vous avez peut-être reconnu ce dialogue entre Pierre Arditi et Fabrice Lucchini au sujet d'un tableau acheté. Il s'agit bien sûr de la pièce Art de Yasmina Reza, dont l'histoire tourne autour des thèmes de l'amitié, de l'art et surtout de la subjectivité au beau, puisque l'un des personnages achète un tableau, on l'a bien compris, entièrement blanc pour une somme très importante, et ce tableau va devenir le point de discorde entre les personnages. Alors, je sais bien, chère Laurence de Villers, que vous allez me détester en vous posant cette première question triviale, voire absurde, mais tant pis, je me lance, et puisque vous écrivez en page 39 de votre livre, dire que le beau est relatif est la remarque la plus désespérante qui soit. Alors, je vous pose tout de même cette question désespérante, qu'est-ce que le beau?
Alors, j'ai commencé par, quasiment, hein, puisque c'est la page 39, vous le dites, par essayer de me délester de cette objection qu'on fait presque immédiatement dès qu'on parle de beauté, avant même de le définir et donc de vous répondre, qui est « Ah oui, mais c'est subjectif ». Alors, et moi, il me semble que dans l'expérience que nous avons les uns les autres de la beauté et de la discussion que nous, des discussions que nous pouvons avoir autour de la beauté, c'est au contraire l'entente. Ce qui fait que il y a quelque chose comme des musées, par exemple, c'est que on ne cesse d'aller voir, les mêmes tableaux. Je parle pas particulièrement de la Joconde, qui est encore une sorte de phénomène, mais on ne cesse d'aller voir des tableaux. Alors peut-être qu'on s'extasie pas à chaque fois, c'est beau, mais quand même, on y va parce qu'on sent qu'il y a quelque chose. Et qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, qu'on peut peut-être pas dire en mots, et qui n'est absolument pas subjectif. Donc moi, ce qui me frappe, c'est tout le contraire. C'est qu'effectivement, des goûts, des préférences, des modes, parce que dans la pièce art, c'est aussi, on fait de la beauté un jugement social aussi. Il est beaucoup plus snob d'aimer un tableau blanc sur blanc que d'aimer du kitsch, par exemple. Donc oui, je ne nie pas que tout ça existe, les préférences, les goûts, les critères de distinction sociale, mais l'expérience esthétique profonde, sans phare, qu'on peut faire, c'est au contraire de l'ordre d'une évidence. D'ailleurs, quand vous remarquez, on dit c'est beau, on cherche pas ces mots. Alors que au sujet de la vérité, on dira plutôt c'est pas faux ou ouais, je suis d'accord ou mais c'est beau, c'est beau.
Et pourquoi est-ce que d'ailleurs on dit c'est beau plutôt que ça me plaît?
Mais parce qu'on sait justement, je crois que c'est ça qui est intéressant. Vous le dites, vous mettez le doigt sur le problème, c'est-à-dire que quand on dit c'est beau, on dit autre chose que ça me plaît. Ça ne veut pas dire que c'est pas fait pour me plaire, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un plaisir. Bien sûr qu'il y a un plaisir. Mais d'une certaine façon, ce plaisir, il est porteur de plus que lui. Pourquoi ? Une autre expérience que je propose, c'est qu'on est capable de dire c'est beau alors que ça nous plaît pas forcément. Moi, c'est une expérience, je la raconte dans le livre, que j'ai faite. D'ailleurs, devant un peintre, de ses œuvres en général et une en particulier, ça me plaisait pas. Et pourtant, j'ai été saisie par le fait que c'était beau. Donc, le définir, je vais avoir du mal à vous dire qu'est-ce que c'est que le beau. Moi, je crois que le beau, ça tient en deux choses. Donc, c'est au-delà du subjectif. C'est que je suis transportée, saisie, bouleversée. Je pense qu'il y a un bouleversement, il y a un transport, comme on peut dire un transport amoureux. Je suis saisie par quelque chose que j'attendais pas, qui est plus grand que moi, qui me donne même plus à voir que je ne peux voir, qui d'une certaine façon qui excède mon plaisir. Il y a face à la beauté, on a le sentiment qu'il y a un excès, il y a tellement plus que ce que j'attendais. Donc il y a ça. Et puis je crois aussi que c'est une des rares expériences qui nous reste, où on peut s'entendre. C'est presque, il y a une dimension politique immédiate dans le sens où, sur la beauté, on va pas se diviser. Il y a la possibilité qu'on s'accorde et qu'on se rencontre.
Alors, pour rester sur la philosophie, vous êtes philosophe, vous enseignez la philosophie, je crois me rappeler, et ça remonte maintenant à quelques années, que Socrate disait qu'il y a trois questions clés, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est beau. La question que je me pose est la suivante, est-ce que le beau est juste pour soi ou est-ce qu'il doit être partagé?
Alors, chez les Grecs, ma réponse serait beaucoup plus simple. Donc imaginez, on est au 5e siècle avant Jésus-Christ, vous et moi, et on est dans les rues d'Athènes, et effectivement on se dit que le beau, c'est ce qui est vrai et ce qui est bien, ou que le vrai est à la fois beau et bien. C'est-à-dire qu'il y a une fonction de vérité dans l'art. Une chose belle ne peut pas être immorale, injuste et fausse. La modernité, dès le XVIIe siècle, et plus encore puisque vous citiez Baudelaire en ouverture, avec Baudelaire, a montré que l'art n'a pas à se soumettre à la vérité. Il peut être dérangeant,
transgressif,
il peut être immoral, il y a une beauté de la laideur, d'une certaine façon. Et donc il y a cette séparation de ce que les Grecs unissaient. Moi, alors, il y a cette question-là, et je pense qu'avec l'art contemporain et de nos jours, de plus en plus, d'une certaine façon, on détache l'art de la beauté. Ça peut être de l'art et ça n'a rien à voir avec la beauté. Bon, on peut s'interroger. Comme vous citiez cet extrait d'art, de la pièce de théâtre, donc c'est un des personnages achète un tableau au blanc. Je pense à Malevitch, blanc sur blanc. Donc c'est vraiment un carré blanc sur du blanc.
Alors, ou Soulage en noir.
Oui, c'est Soulage en noir.
Avec l'épaisseur en plus.
Ou prenons Soulage, si vous voulez. Enfin, très souvent, quand je me balade dans les musées, j'écoute Et plus encore quand j'écrivais ce livre, j'écoutais ce que j'entendais. Alors ce livre, c'est pas la beauté, elle est pas que dans les musées, mais puisqu'on a commencé par les musées. Et très souvent, quand il s'agit d'œuvres contemporaines, j'entends ah bah non, mais c'est pas beau, ou ah bah j'aurais pu le dessiner moi-même. Oui, mais justement parce que dans l'art contemporain, de plus en plus, on essaie de déranger notre certitude qui consiste à croire que si c'est de l'art, c'est beau. Et c'est intéressant d'avoir nos certitudes bouleversées. Et puis vous me demandez, est-ce que l'art c'est pour soi ou pour d'autres,
est-ce
ou avec
est-ce
d'autres?
Est-ce que le beau est pour soi ou faut-il le partager?
Faut-il le partager? Alors, moi, il y a quelque chose, il y a une expérience qui me frappe. J'ai essayé de l'élucider. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais même quand on est seul, dans la nature, ou au musée, encore une fois, moi je ne fais pas la différence. Hein. Le beau, c'est nature et culture. Mais voilà, vous êtes seul, sur les routes, par exemple, ou en mer, et vous dites tout haut, oh, c'est beau. Pourquoi on éprouve le besoin de le dire tout haut? C'est rare qu'on le garde pour soi. C'est-à-dire que même si on le garde pour soi, il y a l'envie en nous, l'élan, qui consisterait d'emblée à me dépasser moi-même. J'ai besoin de le dire. Je pense qu'il y a deux explications. La première, c'est qu'on est submergé par l'expérience esthétique. L'expérience esthétique, si l'expérience du beau, si elle ne vous dérange pas, si elle ne vous déracine pas, si elle vous bouscule pas, c'est qu'elle n'a pas eu lieu. Ça doit forcément se sentir. Et même, je crois que c'est de l'ordre de l'inoubliable. Donc il y a cet excès et le moyen qu'on a nous humains, c'est de mettre en mots ce qui nous dépasse. Donc on doit le dire. Et puis je pense que c'est parce que d'emblée on veut le partager. C'est pour ça que je dis que le beau est peut-être le seul universel qui nous reste, le seul lieu où on peut se rencontrer. C'est-à-dire que dès que je suis face au beau, j'ai presque envie de regarder autour de moi et de dire regardez, c'est beau, non? Ou quand vous emmenez quelqu'un dans un endroit que vous aimez ou devant un tableau que vous adorez, vous avez envie de le prendre par la main, de lui dire c'est beau, non? Et donc, je pense, et je crois qu'on l'explore pas suffisamment, parce qu'il y a peut-être, on se met peut-être beaucoup trop de freins dans l'expérience esthétique, mais je crois que c'est une des seules choses qui nous reste, parce qu'on a perdu beaucoup de choses, hein. On a perdu des idéologies, on a perdu l'idée que les lendemains vont chanter, on a perdu l'idée du progrès, on est peut-être en train de perdre l'idée qu'il y a un Dieu qui nous sauve, ou en tout cas, que l'Église pourrait nous aider à nous sauver. On a perdu beaucoup d'espérance. Mais il nous reste celle-là. Il nous reste cette promesse de la beauté, et je crois que d'emblée, c'est pas pour moi. C'est plus que moi, et j'ai d'emblée envie de le partager.
Justement, ce plus pour moi, vous dites que le beau est un choc et qu'il y a de quoi rendre fou ou malade, et vous évoquez même ce que vous appelez le syndrome de Stendhal. Lorsqu'il était à Florence, l'écrivain a ressenti un profond malaise devant la splendeur des fresques, notamment de la basilique Santa Croce. Question très simple, est-ce que le beau peut rendre fou?
Ah oui. Alors, ce syndrome de Stendhal, il est cliniquement répertorié, identifié par une psychiatre italienne, la première, et il y a encore des personnes qui sont qui ont un choc face à la beauté. C'est proprement insupportable.
De quoi souffre-t-elle alors?
C'est
quels
trop
sont
beau.
Leurs symptômes?
Alors des vertiges, migraines, jusqu'à perdre connaissance, palpitations. Oui, c'est.
Vous l'avez éprouvé vous-même?
Non, moi je l'ai pas éprouvé. J'ai une amie qui me l'a raconté quand j'écrivais ce livre justement et qui m'a raconté que ça lui est arrivé. C'est physiquement être, il y a un malaise, c'est une pathologie, c'est un mal, le
et
mal de.
Comment le soigne-t-on alors?
Alors, on peut le soigner dans les départements de psychiatrie, donc c'est très très sérieux. Hein. Je cite, je crois, quelqu'un, c'est en 2013, ou enfin c'est très récent, qui raconte qu'elle était devant un Botticelli. Et elle raconte qu'elle est prise de palpitations, de fièvre. Et
vous citez dans le livre.
Et voilà, c'est vraiment un malaise psychophysique répertorié, très bien connu, que Stendhal décrit. Parce que, alors, si on ne va pas jusqu'au syndrome de Stendhal, hein, je crois que la beauté a quelque chose d'insupportable au sens strict. C'est-à-dire, c'est plus que je ne peux en supporter. Il y a quelque chose qui me subjugue, qui me dépasse, qui me... Et alors, encore une fois, je ne sais pas si ça vous est arrivé. Alors moi, ça m'est arrivé, en revanche. C'est beau à en pleurer. C'est-à-dire que curieusement...
C'est une expression qu'on peut utiliser.
Curieusement, il y a les larmes qui nous viennent devant la beauté. Pourquoi les larmes? Parce qu'on n'est pas triste. Ça aussi, c'est une énigme philosophique. Pourquoi les larmes? Moi, je pense que c'est parce que... Je crois qu'il y a une forme de réconciliation. Je pense que quand on voit la beauté, on se dit « Ah ouais, la vie vaut la peine. Ah ouais, il y a ça. Ah oui, il y a ça. » Vous voyez, promesse tenue. Il y a une promesse qui a été faite et elle est tenue. Et là, je suis saisie par cette beauté et je me dis bah, « Ça vaut la peine de vivre. » Vous voyez, on touche au cœur brûlant de la vie.
Ouais. On va marquer une première et courte pause musicale avec un morceau que vous citez dans votre livre. C'est à la page 51. Il s'agit d'un extrait tiré du répertoire espagnol pour guitare classique et vous écrivez « Quand j'ai besoin de motivation pour lutter contre la procrastination, j'écoute Asturias d'Albéniz. C'est pour moi la bande originale du vouloir. » On écoute ce beau morceau, mais malheureusement assez court. Allez, de retour avec Laurence de Villers, philosophe, et nous parlons de ce qui est esthétique, équilibré, doux, regard harmonieux, bref, et en toute simplicité, nous parlons du beau. Le livre dont il est question s'intitule « La splendeur du monde, aller à la rencontre de la beauté » et c'est paru chez Stock. Alors, il y a un chapitre dans votre livre qui a pour titre « Le silence de la Madone Sixtine, apprendre à se taire ». Et vous écrivez que beauté et silence sont indissociables. Est-ce qu'on est obligé de se taire, d'être silencieux, recueilli pour éprouver le beau, alors que précédemment, on a dit qu'on a besoin parfois de l'exprimer en disant simplement c'est beau?
Alors je pense qu'il y a le silence avant, pendant, après. C'est-à-dire que oui, on est pris de l'élan de dire c'est beau, mais avant de le dire, je pense qu'il y a ce moment de silence où je laisse le monde me parler. Et je pense que très souvent on coupe la parole à la beauté, ce qui fait qu'on la voit pas. On lui coupe la parole parce que on veut absolument pas rater ce qu'il faut voir, ou alors parce qu'on veut absolument savoir ce qu'il y a à voir, ou alors parce qu'on nous a dit qu'il fallait le regarder. Donc il y a plein de moyens de rater la beauté, et je crois que le bruit, mais le bruit de notre inquiétude, de notre préoccupation, de nos listes des 500 choses à voir avant de mourir, le bruit de nos guides, le bruit de se dire est-ce que c'est de bon goût, est-ce que je dois aimer, est-ce que je dois pas aimer. Vous voyez, cette espèce de ces bruits parasites qui font qu'on ne laisse pas la beauté se dire. Je crois qu'en fait, la beauté, alors, encore une fois, hein, culturelle ou naturelle, la beauté d'un arbre, la beauté de la mer, la beauté d'un tableau, d'une musique, elle nous parle, elle nous dit quelque chose. Et la plus grande des politesses esthétiques, c'est d'abord laisser parler autre chose que moi. Donc, le silence, je pense qu'il est indispensable pour que quelque chose se passe.
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on doit, quelque part, être un peu silencieux dans les musées.
Mais oui, vous l'avez remarqué, on chuchote dans les musées, comme dans les églises. C'est marrant, hein, quand on visite une église, qu'on soit croyant ou pas, on n'a pas envie de crier. Bah, dans les musées, ni on a envie de crier, ni on a envie de toucher. Remarquez ces deux gestes que je trouve qui sont très significatifs de l'expérience esthétique. Je veux pas mettre la main dessus, on touche pas un tableau. Et je veux laisser parler, je chuchote parce que je pense que le silence est la condition pour laisser advenir quelque chose. Moi, j'ai beaucoup de maîtres, hein, des personnes qui ont pensé avant moi, qui m'ont aidé à penser. Mais un de mes maîtres, c'est Daniel Arras, le historien de l'art, qui est, bon, pour moi, un dépassé incomparable. Et il dit justement qu'il est allé voir cette Madone Sixtine à Dresde, en Allemagne, des centaines de fois. Et puis, il sentait qu'il y avait quelque chose, mais il savait pas quoi. Et en fait, c'est dans le silence que c'est advenu. Et il a une expression que je trouve très très belle et que j'utilise tout le temps. Il dit, le tableau s'est levé. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a, ah ouais, il a vu. Je pense que c'est valable pour des tableaux, des musiques, des paysages. Je pense qu'il faut laisser du temps au temps. Et la mesure du temps, c'est le silence, c'est pas le bruit. Le bruit, il me sépare de moi-même, il me sépare des autres. Le bruit sépare. Et d'abord de moi-même. Et je pense que dans le bruit, on ne voit pas. Et encore une fois, le bruit, il peut être ce bruit intérieur où j'ai peur de louper. En voyage, par exemple. Je pense qu'il y a un tourisme de la peur. Où on a peur de pas voir ce qu'il faut voir, de rater.
Ou de faire quelque chose. J'ai fait l'Islande, j'ai fait l'Irlande.
Le tourisme de la peur, c'est le tourisme du faire. Il faut absolument faire quelque chose. D'ailleurs, on le dit, j'ai fait Venise, j'ai fait le Vietnam, j'ai fait le GR20. Mais c'est pas faux, c'est faux. C'est voir qui compte. Parce que dans le voir, il y a une rencontre. Il y a ce que je vois qui m'apporte ce qu'il est. Toute sa belle altérité, le fait qu'il soit autre que moi. Et puis, il y a moi qui viens avec tout ce que je suis. Mes yeux, ma biographie, mon passé, mon avenir, mes souffrances, mes aspirations, qui vais à la rencontre de ce qui est vu. Donc ça peut pas se faire dans le bruit.
Là, il y a même des recherches qui montrent que des environnements architecturaux bien conçus peuvent réduire le stress et améliorer la qualité de vie. Par exemple, des espaces lumineux, harmonieux, bien ventilés. Alors, j'oublie pas que nous sommes à Radio Immo, donc parlons un petit peu de bâtiments et d'immobilier. Donc, des bâtiments notamment harmonieux, bien ventilés, visuellement agréables, sont associés à une meilleure humeur et à une diminution des niveaux de stress. Est-ce que vous partagez cette idée que le beau calme et qu'il apaise ?
Ah, mais absolument. Le beau fait du bien. Alors, je pense que l'erreur, ça serait de transformer le beau en marchandise du bien-être, ça serait un petit peu le rabaisser, le limiter, voilà. Mais le beau fait du bien, le beau soigne. Et puis j'irais même plus loin, je pense qu'il faut une politique du beau.
Avec un ministère du beau.
Moi, je plaide pour un ministère de la transition esthétique parce que je pense que on se rendra compte qu'on a voulu faire vite, beaucoup. Et pas beau. Et qu'effectivement, il est important, même politiquement, pour apporter une unité et peut-être même de la paix, il faut qu'il y ait de la beauté. Vous l'avez remarqué que les choses laides entraînent des comportements agressifs et irrespectueux. Plus c'est laid, moins on respectera. Alors que la beauté, c'est comme une éducation politique, ça veut dire attention, c'est important. Une ville, c'est important, un centre-ville, c'est important ces rues qu'on partage, c'est important ces immeubles qui doivent être de l'habitat, où des humains vont y vivre leur vie. Vous voyez, je pense que dans la beauté, il y a une éducation au respect et à la dignité de soi et des autres.
Vous parlez donc à l'instant d'éducation à la beauté, justement. Est-ce que le beau peut s'apprendre ou sommes-nous ou pas doués pour le beau? Et si oui, qui doit être chargé de cet enseignement du beau?
Alors, c'est pas pour esquiver votre question, mais je pense que le beau s'apprend-il? Il faudrait répondre oui et non. Non, parce que c'est une rencontre et on n'apprend pas une rencontre. Enfin, personne d'entre nous n'a appris la rencontre amoureuse. Ça se saurait, non? Ça s'apprend pas. Là, parce que vraiment, la beauté, ce qui est beau, c'est de l'ordre de la rencontre. Et surtout, avec ce que j'ai essayé de mettre au jour, la catégorie de la splendeur, qui est une beauté inattendue, qui peut être inaperçu. On peut passer complètement à côté de la splendeur. C'est rare de passer à côté de la beauté. On peut ne pas être d'accord, discuter, mais la splendeur, on peut passer totalement à côté. C'est un détail, c'est fugace, c'est une harmonie, un cadrage. Donc, on peut passer à côté comme on peut passer à côté d'une rencontre. Donc, d'une façon, ça s'apprend pas, ça saisit comme on saisit une chance ou comme on saisit son bonheur. Mais en même temps, je crois qu'effectivement, on peut cultiver des dispositions. On a déjà donné un des moyens d'apprentissage de la beauté, c'est le silence. Apprendre à faire silence, c'est-à-dire... Mais c'est difficile, Par exemple, rester 3 minutes sans rien dire devant un tableau, un paysage ou une musique. C'est très, très, très long, 3 minutes. Mais voyez, ne pas prendre de photos, par exemple. Attendre que le tableau se lève ou que le paysage se lève, c'est-à-dire qu'il me parle. Le silence est une des conditions. Moi, je pense aussi qu'on peut apprendre. Alors moi, je le fais avec mes élèves. C'est qu'est-ce à lire un paysage, à lire un tableau, qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui se dit.
Mais ça, il faut le décoder, il faut le quelque part qu'on ait un maître, un professeur qui puisse nous l'expliquer. Bah,
mais vous savez, je pense que le premier obstacle, c'est la peur. Encore une fois, je pense que vraiment l'ennemi de la beauté, c'est la laideur. On est d'accord, mais c'est la peur aussi. C'est est-ce que j'ai bien vu ce qu'il fallait voir? Il y a une phrase de Peggy qui est une bonne méthode pour l'expérience de la beauté. Il dit, il parle d'Homère et il dit entre Homère et nous, faut si possible y mettre rien. Mais c'est ça. Ne mettons rien. Laissons. Alors d'architecture aussi, le Panthéon, laissons Venise me parler. Ne mettons rien. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois? Donc je pense qu'il faut cultiver le silence, l'arrêt. Faut s'arrêter. Qu'est-ce que je vois? Faire confiance à ce qu'on voit.
Ses sens.
Ben oui, alors quand je dis voir, c'est tous les sens, le toucher, l'odorat. Pour moi, le voir est une expérience totale. Et puis, l'imagination. L'imagination. Qu'est-ce que ça me raconte? Qu'est-ce qui se passe? À quoi ça ressemble? À quoi ça ne ressemble pas? À quoi ça me fait penser? L'odeur que ça peut avoir? Vous voyez? Et je crois, je finirai cet apprentissage par l'attention. Il y a une vigilance. Comme la splendeur, c'est la beauté à côté de laquelle on peut passer, je pense que la qualité première, c'est cette vigilance, est aux aguets. Moi, quand je voyage, ou même dans Paris, j'essaie d'être à l'affût. Quelle splendeur va être là et que je peux rater? Qu'est-ce qui se passe? Ah, cette lumière! Ah, oui, c'est complètement modeste, la splendeur. Contrairement à ce que son nom indique, par cette catégorie de splendeur, j'entends quelque chose qui est à pas feutré, qui peut être complètement anonyme, qui peut être, mais vraiment très modeste. Donc, oui, ça s'apprend. L'arrêt, le silence, l'imagination, la curiosité. La curiosité, je veux aller voir, je veux avoir les yeux grands ouverts. Et puis la vigilance, regardons correctement.
Là, il y a en français cette expression d'ailleurs pour la beauté du geste, c'est-à-dire faire quelque chose pour le plaisir plutôt que pour un résultat pratique et immédiat. Alors j'ai vérifié, cette expression existe aussi en espagnol, en italien, en portugais, bien qu'elle diffère un peu dans les langues du Nord, comme en anglais ou en allemand, où la notion de beauté n'apparaît pas puisqu'on y parle plutôt d'art, for the sake of the art, que l'on pourrait traduire par pour la pureté du geste. Et j'en viens à ma question, pourquoi agit-on, c'est presque une question qui renvoie à l'éthique, pour la beauté du geste? Parce qu'en dépit de nos instincts grégaires, égoïstes, nous avons des bouffées d'altruisme, d'amour, et que nous agissons pour la beauté du geste. Pourquoi est-ce que nous agissons pour la beauté du geste?
Oui, vous avez raison d'en parler, parce que quand on parle du beau, alors, il y a la catégorie artistique, naturelle, et puis il y a l'éthique, il y a la morale, un beau geste, on dit aussi un beau geste. On dit une bonne action, mais d'une certaine façon, quand on dit ça, on veut dire belle. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose
qui transcende,
qui fait que le monde tourne. Il y a une harmonie, il y a une justice et une justesse dans par exemple un acte courageux, un acte moral courageux de quelqu'un qui vous soutient, quelqu'un qui refuse de hurler avec les loups, quelqu'un qui nous rappelle au bien à faire. Il y a une beauté, moi je pense qu'il y a vraiment une beauté morale, et quelqu'un de bien, d'une certaine façon, c'est quelqu'un de beau,
c'était
moralement.
C'était le titre de votre vous avez écrit les questions.
Bah oui, j'ai écrit un livre sur quelqu'un de bien, mais vous voyez, il manquait ce chapitre que je crois que il y a une vraie beauté morale.
Ouais. Notre monde numérique est envahi par le prétendument beau que nous produisons sans cesse nous-mêmes avec nos mises en scène instagrammables ou nos selfies pour lesquels nous apparaissons forcément sous nos meilleurs jours. Que dit ce beau quelque part à l'ère démocratique où, je vous cite, nous jouissons tous ou presque, et c'est tant mieux, d'un droit à la beauté?
Oui, je pense que, alors, parce qu'on a beaucoup, on a beaucoup critiqué le tourisme qu'on appelle maintenant surtourisme. On peut facilement critiquer Instagram. Mais en même temps, il s'est quand même passé cette révolution dès la fin du XVIIIe siècle, XIXe siècle. Mais évidemment, on est les héritiers de ce mouvement. C'est que la beauté du monde, par exemple, naturelle, n'était plus réservée à des élites, à une aristocratie qui pouvait voyager. Donc là, je ne peux que dire tant mieux. C'est-à-dire qu'on a le droit à cette beauté. Et puis je crois que le fait que la beauté soit à peu près partout, qu'on veuille absolument avoir des photos de nous, des autres, même de nos repas, qui soient belles, instagrammables, etc. Ça prouve quand même qu'il y a un besoin de beauté. Le danger, c'est que l'écran devienne une fin en soi. C'est-à-dire, et ça arrive, hein, c'est-à-dire qu'on voyage pour que ça ressemble à des photos qu'on voit qui sont instagrammées, qui sont filtrées, qui sont trop belles. Moi, je cherche pas le trop beau, hein. Je pense qu'il y a une modestie dans la beauté, il y a une humilité dans la beauté. Vous voyez, le danger, c'est ça. Ça m'est arrivé d'aller en Cornouaille et en fait, il y avait un monde fou. Et les locaux expliquaient que c'est parce qu'il y avait eu une série, Paul Dark, qui avait fait un malheur, et que les touristes arrivaient avec les photos et en disant c'est où. Donc vous voyez, c'est qu'on confond, d'une certaine façon, je crois qu'on n'honore pas le réel quand on fait ça. Alors que la réalité, quand on va voir la beauté sur place, c'est tellement plus que ce qu'on pouvait imaginer. Et puis, moi, ce qui me frappe, le surtourisme, c'est quoi? C'est qu'on va tous au même endroit, au même moment. Mais, par exemple, je parlais du Panthéon. Bien sûr, c'est, à mon sens, une des plus belles architectures au monde et de l'histoire. C'est une chose, même à chaque fois que je la vois, je me dis, mais c'est pas possible que ça existe. Donc, c'est des proportions énormes, mais en même temps, ça semble...
harmonieuse.
Bah oui, ça semble aérien, parce que justement, il y a l'oculus, il y a le toit est ouvert. Donc c'est, voilà, vous êtes saisis, c'est la splendeur, alors là, au sens fort. Et on fait la queue, et il y a un monde fou, etc. Mais les rues autour, il y en a qui sont vides, mais c'est superbe aussi. C'est ça, Rome. Vous voyez? C'est que, je pense que le côté Instagram, ou le côté surtourisme, c'est parce que on a peur de rater ce qu'on est peut-être condamné à rater. C'est la peur qui fait qu'il y a des queues pas possibles, alors que et du coup ça vide les lieux de leur vie, c'est-à-dire que Rome devient une sorte de Pulse, la Fontaine Trevi, le Panthéon, le Forum, mais on oublie que Rome c'est Rome, c'est où il y a de la vie, c'est où il y a de la substance, c'est où il y a un parfum, c'est où il y a un rythme, c'est où il y a des odeurs, des bruits. Et je crois que justement, le tourisme de l'Instagram qui est cette peur de rater ce qu'il faudrait absolument voir devrait être remplacé par une nonchalance, une flânerie. Mais une fois qu'on a vu le Panthéon, flânons. Ne passons pas tout de suite à la Fontaine Trevi. Vous voyez? Je pense que notre obsession du beau, c'est en réalité une obsession du faire encore. Et de la possession. Parce que quand je veux ce beau instagramisable,
je veux le capturer.
Je veux le capter, je veux le posséder, mais ouais, on possède pas plus le beau qu'un animal sauvage. Le beau, c'est le sauvage. C'est vraiment le sauvage. C'est ce sur quoi je ne peux pas mettre la main.
Merci Laurence de Villers pour cette belle émission et surtout de venir pour la troisième fois à ce micro. Comme dit l'expression un peu trafiquée, jamais 312.
Ah, bah, c'est un plaisir. C'est un plaisir quand vous voulez.
Encore 8 ou 9 émissions à faire ensemble. Ce sera, vous le savez, vous êtes la bienvenue. Alors, on reste dans les sujets philosophiques en vous indiquant, et je devine que vous y serez sensible, cette découverte que j'ai faite avec un chatbot interactif façon ChatGPT qui se propose rien de moins que de converser avec des philosophes disparus, Platon, Socrate, Hobbes, etc. Évidemment Pascal. Bref, et comme ChatGPT, vous lancez le dialogue avec vos philosophes préférés et c'est assez bien fait, et si vous le souhaitez, je vous donnerai l'adresse de ce philo GPT
si vous
le souhaitez. Et dernière chose aussi, et là on reste sur notre sujet en lien avec l'art et le beau, pour signaler à nos auditeurs que vous organisez des visites philosophiques au musée d'Orsay, le principe est simple, devant des œuvres de peintres forcément du 19e siècle, il s'agit de les regarder avec un prisme philosophique. Que signifie être libre selon Courbet, ou encore que nous dit Bonnard du bonheur. Deux dates à retenir, notamment le 28 novembre à 19h et le 16 janvier 2025 à 19h. Et pour s'y inscrire, c'est très simple, il suffit d'aller sur le site du musée d'Orsay, www.musée-orsay.fr. Voilà.
Merci
encore Laurence de Villers d'être venue à ce micro. Complètement à l'Ouest reviendra le mois prochain, émission au cours de laquelle on parlera. C'est un sujet tout autre, mais ça c'est l'ADN de Complètement à l'Ouest. On parlera conquête spatiale avec le général Philip Stanninger, qui a récemment publié Révolution spatiale, de Von Braun à Elon Musk, la guerre des étoiles a déjà commencé. Mes remerciements à toute l'équipe qui œuvre, toute l'équipe technique qui œuvre en régie pour que ces émissions de Complètement à l'Ouest soient parfaitement fluides, et elles le sont. Et puis bien sûr, je le rappelle, cet épisode ainsi que les 47e autres peuvent être réécouter à volonté en podcast sur les principaux players en ligne qu'ils se nomment Spotify, Apple Podcast, Google Podcast et beaucoup d'autres. Voilà, vous savez presque tout. Salut à toutes et à tous, on garde le cap à l'ouest, complètement à l'ouest.